Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts d'Educa sur la numérisation dans l'éducation. Je m'appelle Benjamin Folland. Aujourd'hui, nous parlons pour la dernière fois des principaux résultats de notre rapport « La numérisation dans l'éducation » et ce qu'il signifie pour la vie, l'enseignement et l'apprentissage dans nos écoles en Suisse. Les questions autour de l'utilisation des technologies numériques dans l'éducation et leur effet font partie d'un domaine de recherche en plein boom. En 2001, environ 13 000 articles ont été publiés dans le monde sur ce sujet. 20 ans plus tard, ce chiffre est dépassé le 100 000 articles. La pertinence du sujet a également fortement augmenté. En 2011, parmi les 20 principales revues scientifiques dans le domaine des sciences de l'éducation, 3 étaient spécifiquement consacrées aux médias numériques. Il y en avait 5 10 ans plus tard. La littérature scientifique et non scientifique est donc devenue très abondante. Et même si on n'y regarde pas de trop près, on trouve de nombreux résultats apparemment ou réellement contradictoires. Conséquence, il est possible de soutenir n'importe quelle position par au moins un résultat d'étude pertinente. Une telle approche serait certainement une bonne base pour un modèle d'entreprise, pour une sorte de service qui filtre dans la masse de la littérature tous les résultats d'études qui me conviennent. Mais en tant que base d'une politique d'éducation basée sur des preuves, une telle approche est évidemment pas appropriée. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser à la manière de distinguer dans les flottes des résultats les études convaincantes de celles qui le sont un peu moins. En d'autres termes, qu'est-ce qui fait une bonne étude et à quoi faut-il faire attention lorsque l'on a une belle étude devant soi et que l'on veut savoir quelle est la crédibilité et la pertinence des affirmations qui sont faites.
Educa, agent novateur.
La première chose à faire, et peut-être la plus importante, est de se rendre compte que les résultats de nombreuses études scientifiques sont faux, même si les études sont bien faites. Cela s'explique d'abord par la tradition dominante de l'analyse statistique. Dans cette tradition, on essaye d'estimer la probabilité qu'un résultat donné soit le fruit d'un tirage aléatoire d'un échantillon très malheureux, donc en fin de compte dû au pur hasard. Cette probabilité peut être estimée, et s'il est inférieur à une certaine valeur, on dit qu'un résultat est statistiquement significatif. Les valeurs limites auxquelles on se tient toujours de manière relativement servile ont été définies en 1925 par les mathématiciens Ronald Fisher, incroyablement active et toujours très influente aujourd'hui. La valeur magique est ici des 5%. C'est la valeur qui est traditionnellement perçue comme si petite qu'une erreur aléatoire est considérée comme improbable et donc acceptable. À l'inverse, cela signifie que dans un cas sur 20, un test statistique donne par erreur un résultat significatif. Et pour simplifier, cela signifie que rien qu'en 2021, il y en a eu plus de 3400 études publiées dans les domaines éducation et médias numériques qui sont fausses par pure coïncidence. Et comme la raison ici est le hasard, il n'est même pas possible de dire lesquelles. La conséquence est que les résultats d'une seule étude, aussi innovante, bon et passionnante soit-il, doivent être considérés avec la plus grande prudence. Il est aussi rare qu'une hirondelle fasse le printemps qu'une étude permette de tirer des conclusions valables ou de formuler des recommandations d'action pertinentes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les études sur les études, appelées les méta-analyses, sont si utiles. Elles permettent en effet de résumer les résultats de nombreuses études et de comprendre dans quelle mesure les résultats d'une étude peuvent être confirmés par d'autres. Malheureusement, les erreurs aléatoires d'échantillons ne sont pas la seule source de problèmes ou des biais dans la littérature scientifique. Les systèmes d'incitation actuels dans la recherche sont potentiellement plus graves. Il s'agit notamment du fait que dans le monde de la recherche, les innovations et les résultats statistiquement significatifs sont toujours plus populaires et plus faciles à publier que les études qui ne trouvent pas d'effet statistiquement significatif ou qui ne font que reproduire, entre guillemets, le résultat connu. Les publications sont une sorte de certificat d'aptitude dans le domaine scientifique. Elles donnent une réputation, un emploi, elles donnent accès à des fonds de recherche. Et cette combinaison, c'est-à-dire l'importance des publications pour votre avenir professionnel, et le fait que la probabilité que vos travaux soient publiés augmente si les résultats sont statistiquement significatifs, cette combinaison crée deux incitations à des comportements très malsains. Premièrement, cela incite à modifier légèrement les calculs statistiques, consciemment ou inconsciemment, jusqu'à ce que les résultats soient statistiquement significatifs ou à laisser tomber les résultats non significatifs. Un phénomène qui porte le joli nom de p-hacking. P ou P parce que la valeur de probabilité dont nous avons parlé s'appelle aussi la valeur P. Et deuxièmement, cela conduit à une sorte d'autocensure parmi les scientifiques dans la mesure où les résultats non significatifs ne sont pas soumis pour publication mais disparaissent dans un tiroir ou sont rejetés lors du processus d'évaluation. Les deux phénomènes, le p-hacking et l'autocensure ou la censure, sont plus répandus qu'on ne le voudrait. Par exemple, une étude de 2019 montre que le pourcentage des résultats non significatifs dans la littérature psychologique et biomédicale publiée passait de 10 à plus de 60% lorsque l'évaluateur examine uniquement la conception et les méthodes de l'étude et non les résultats statistiques. Si nous supposons que des chiffres similaires s'appliquent à la recherche sur les médias numériques dans l'éducation, il y a peu de raisons de penser qu'il en soit autrement. Il faudrait, selon une estimation prudente, qu'en plus des 67 000 études empiriques publiées en 2021, 67 000 autres études empiriques n'aient pas été publiées en raison de leur manque de signification statistique. Le fait de ne pas tenir compte des résultats non significatifs dans la littérature, c'est-à-dire des études qui concluent qu'en effet ne pas démontrable, a des conséquences. Cela signifie que le résultat publié donne une image déformée de la réalité des données scientifiques. Et cela signifie que même les effets moyens calculés à l'aide des méta-analyses de la littérature surestiment très probablement les effets dans le monde réel. En notre terme, si l'effet moyen de la littérature est négatif, il donne probablement une image trop pessimiste du monde. S'il est positif, l'effet moyen est probablement trop optimiste. Et c'est là qu'intervient la grande force des rapports sur l'éducation. En effet, la littérature est examinée et évaluée dans son ensemble. Cela permet d'évaluer la qualité des études publiées et de prendre en compte le problème connu de la littérature, comme les biais de publication. Et sur cette base, il est plus facile d'évaluer le degré de réalisme et de l'importance de ces résultats. Un exemple où de telles réflexions et évaluations sont pertinentes est la littérature sur les effets des différentes utiles numériques sur l'apprentissage, par exemple le programme d'apprentissage adaptatif. Il existe de très nombreuses études sur ces questions avec de très grandes différences de qualité et des résultats parfois très contradictoires. Pour ceux qui s'intéressent au contenu, nous recommandons le premier podcast de cette série, nommé « Apprendre avec les médias numériques, c'est compliqué ». Parmi toutes ces études, on peut maintenant se concentrer sur celles qui répondent à certains critères de qualité. Par exemple, les études expérimentales, car elles ont tendance à être particulièrement efficaces pour identifier des effets causaux. Et on trouve alors, en moyenne, un effet positif avec une taille d'effet d'environ 0,4 sur toutes ces expériences. C'est une bonne valeur et on pourrait annoncer au monde entier que la technologie fonctionne comme prévu et que la différence entre ceux qui l'utilisent et ceux qui ne l'utilisent pas équivaut à environ une année de scolarité. Mais, et bien sûr il y a un mais, si l'on considère le nombre moyen des participantes à ces expériences, on constate qu'il est relativement faible. En fait, l'expérience médiane ne compte que 110 participants environ. Pour les études avec ces petits nombres de participantes, il est très peu probable de trouver des effets statistiquement significatifs inférieurs à cette valeur de 0,4. Dans ces conditions, on dit alors que le test statistique a peu de puissance ou power en anglais. Et en supposant que les études non publiées et publiées ont à peu près le même nombre de participantes, cela signifie qu'il y a probablement beaucoup d'expériences qui trouvent des faits inférieurs à 0,4 et qui n'ont pas été publiées mais mises en tiroir en raison d'un manque de signification parce qu'il n'y avait pas assez de participantes. En d'autres termes, la valeur moyenne de 0,4 est nettement trop élevée. Et en effet, une étude de cette littérature expérimentale datant de 2015 montre que les effets moyens d'études publiées avec jusqu'à 80 participantes sont presque 3 fois plus importants que les effets moyens des études avec plus de 250 participantes. L'étude montre également que les effets des études publiées sont environ 1,5 fois supérieurs à ceux des études non publiées. Si l'on corrige maintenant la valeur moyenne de l'effet de toutes les études, c'est-à-dire cette valeur de 0,4, pour tenir compte de ces influences des distorsions, il reste en effet moyen de 0,1. Ce n'est pas mal du tout, mais c'est moins que la valeur initiale. Et des facteurs supplémentaires pourraient faire en sorte que même cette estimation soit encore trop élevée. Par exemple, parce qu'il est souvent très difficile de recruter des participants à l'étude dans les contextes scolaires et parce que la participation est généralement volontaire. Dans ces cas, il ne faut pas s'étonner que les participants à ces études ne soient pas nécessairement représentatifs de l'ensemble des élèves. On peut raisonnablement penser qu'il s'agit des personnes plus intéressées par les technologies numériques ou du moins qui ont des enseignantes ou des directeurs ou directrices des écoles plus ouvertes à ces technologies. Et cela pourrait les amener à se lancer dans de telles expériences avec plus d'enthousiasme ou d'expérience préalable, ce qui augmenterait à son tour les différences mesurées entre les utilisateurs et les non-utilisateurs. Ce phénomène d'auto-sélection est d'ailleurs l'une des principales raisons pour lesquelles il est si difficile de transposer à l'échelle d'un système éducatif, sans être déçu, des interventions testées expérimentalement. Et cela vaut pour tous les types d'interventions, pas seulement pour les ressources d'apprentissage numérique. Mais avant que vous ne soyez frustré et que vous ne vous demandiez si ces ressources d'apprentissage numérique sont encore utiles, deux petites remarques en pause. 1. Écoutez les podcasts sur le sujet et donnez un aperçu beaucoup plus complet du sujet. Et B. Vous devez vous rendre compte que dans le domaine d'éducation, même des améliorations minimes des performances d'apprentissage peuvent s'accumuler tout au long de la scolarité pour avoir un impact important. Par exemple, une étude américaine de 2011 a montré qu'une amélioration de seulement 1% des résultats scolaires à l'école primaire augmente le revenu de 1,5% en moyenne à l'âge des 28 ans. Si nous supposons qu'une corrélation similaire s'applique à la Suisse, nous pouvons extrapoler qu'une amélioration minimale des performances d'apprentissage grâce à l'utilisation des ressources d'apprentissage numérique entraîne un revenu supplémentaire de 12 à 17 000 francs sur l'ensemble de la vie professionnelle. En d'autres termes, même des effets apparemment faibles peuvent être importants.
Educa, agent novateur.
Il est donc important d'aborder les résultats de la recherche scientifique avec un scepticisme sain, mais sans pessimisme excessif. Et en général, leur réponse à quelques questions de base qui ne sont peut-être pas toujours faciles à trouver, permettent de mieux évaluer n'importe quelle étude. La première question est de savoir s'il existe des études supplémentaires qui parviennent à des résultats similaires avec d'autres données. Ou mieux encore, s'il existe déjà des méta-analyses sur ces sujets. Et que disent ces méta-analyses en ce qui concerne la distribution des effets trouvés, pas seulement en termes d'effets moyens. En règle générale, les études de grande envergure, c'est-à-dire avec plus de participants, devraient avoir tendance à produire des résultats plus proches de la moyenne que des études plus petites. Si ce n'est pas le cas, cela indiquerait des erreurs systématiques. Dans ces cas, il est généralement préférable de s'orienter vers les résultats de grandes études. La deuxième question importante pour évaluer la fiabilité des résultats d'une étude est de savoir si l'étude tente d'identifier un effet causal ou si elle mesure simplement une relation de corrélation. En règle générale, les études expérimentales aléatoires sont plus susceptibles de trouver des liens de causalité que les analyses de données d'observation. Et les données d'observation qui suivent les individus, dont les temps sont plus appropriés que celles qui ne suivent chaque participant qu'une seule fois. Ce que l'on appelle les données transversales, comme l'enquête PISA. Il est certes possible d'isoler des relations de cause à effet à partir de données transversales, mais cela suppose un certain nombre d'hypothèses qui doivent être testées et étayées par des arguments. Les bonnes études qui utilisent des techniques telles que l'analyse des variables instrumentales, les discontinuités des régressions ou les modèles d'équations structurelles, ces bonnes études se reconnaissent généralement au fait qu'elles consacrent un travail relativement important, c'est-à-dire du texte et des calculs, à tester et à défendre ces hypothèses. Dans les études qui ne le font pas, le risque est grand que ces hypothèses sont violées et la démarche méthodologique est alors encore plus mauvaise qu'une analyse transversale standard. En d'autres termes, ce n'est pas parce que une ou un auteur affirme qu'une analyse est causale qu'elle le devient. Et ce n'est pas parce qu'un modèle d'équation structurelle est utilisé qu'un résultat peut automatiquement être interprété d'une manière causale. Et bien sûr, et il ne faut pas oublier cela non plus, il y a des questions qui n'ont pas besoin d'une réponse causale. Le troisième point important dans l'évaluation de la qualité et la pertinence d'une étude est de se demander comment les décisions prises par les auteurs de l'étude en amont de celle-ci peuvent affecter les résultats. Il s'agit par exemple de la question de savoir qui participe à l'étude et dans quelle mesure les participantes sont représentatives de la population dont ils sont issus. Mais cela concerne également d'autres décisions relatives à ce que l'on appelle la conception de l'étude, par exemple la question de la durée d'une étude ou de son lieu de réalisation. Il est relativement bien connu que l'utilisation des technologies numériques augmente considérablement la motivation à apprendre à court terme, c'est-à-dire le plaisir d'apprendre. C'est pourquoi, dans la littérature, les effets les plus importants sont observés dans l'étude menée sur des périodes relativement courtes, ne dépassant pas 3 mois. Il n'est toutefois pas clair si cela est effectivement lié aux ressources ou simplement au fait que quelque chose change dans le quotidien de l'école. Et l'on sait que cet effet de nouveauté s'estompe assez rapidement, laissant place à une frustration générale avant que quelque chose comme une gestion productive ne soit trouvé. Cela signifie également que l'effet mesuré d'une technologie dépend systématiquement de la durée de l'étude. Plus une expérience est longue, plus ses résultats ont tendance à être crédibles. Attention donc aux études de 6 semaines. Attention également aux études menées dans notre système éducatif. Nous avons peu, vraiment peu d'informations fiables sur la possibilité de transposer les résultats de systèmes éducatifs américains, chinois ou indiens, par exemple, dans le système éducatif suisse. Et pour finir, si vous avez répondu de manière satisfaisante à toutes les questions précédentes sur la qualité d'une étude, demandez-vous quelle est l'importance réelle d'un effet mesuré. En d'autres termes, que signifie un résultat lorsqu'il est exprimé en unités moins scientifiques? Nous avons déjà brièvement évoqué le fait que cela peut signifier réfléchir à l'utilité économique attendue en France-Suisse. Une autre possibilité serait d'estimer combien d'élèves supplémentaires atteignent ainsi les compétences de base requises. Et bien sûr, n'y aura-t-il pas d'autres interventions qui permettraient d'obtenir le même effet à moindre coût? Existe-t-il des bénéfices secondaires, des effets qui justifieraient une mise en œuvre plus large dans le système éducatif malgré un coût éventuellement plus élevé? Et quel serait le coût d'une mise en œuvre à plus grande échelle? En principe, il est peu probable que les interventions testées de manière expérimentale conservent leur efficacité dans un contexte plus large, par exemple dans l'ensemble du système éducatif, si elles nécessitent des changements de comportement très éloignés de pratiques scolaires et d'enseignement vécu, si elle exige un niveau de qualification beaucoup plus élevé que celui de l'enseignant type, s'il est prévisible qu'elle suscite une forte opposition de la part du public ou des praticiens, s'ils sont coûteuses, ou s'ils dépendent du charisme d'une seule personne ou d'un petit groupe de personnes bien formées et engagées. Résumons. Il n'est pas facile d'évaluer la qualité et la pertinence pratique des résultats scientifiques. La bonne nouvelle, c'est que c'est précisément la raison d'être du monitorage de l'éducation. C'est donc l'équation de relire notre rapport à la numérisation dans l'éducation ou de réécouter notre série de podcasts avec des nouvelles oreilles. Vous trouvez les deux sur notre site internet. Sur ces paroles bienveillantes, merci pour votre écoute et peut-être à bientôt.
Educa, agent novateur.